France Culture, vous écoutez La Nuit Rêvée d'Emmanuel Guibert. Rebonsoir Emmanuel Guibert.
Rebonsoir Mathilde.
Nous vous retrouvons pour la deuxième partie de votre Nuit Rêvée. C'est vous qui avez choisi les émissions que nous écoutons tout au long de cette nuit. Grâce à vous, depuis le début de la nuit, on a pu écouter l'artiste et écrivain Fred Deux nous raconter un beau souvenir de jeunesse. C'était dans l'émission Surpris par la nuit en 2001. On a écouté Yann Parentoen raconter sa manière de pratiquer son art, l'art de tailler des sons. C'était pour Les Chemins de la Connaissance en 1987. On a entendu Georges Perros parler au micro de Jean Dev dans le premier volet d'une série d'entretiens diffusée en 1976. Et puis enfin, à l'instant, c'était l'ethnologue Marcel Griol qui racontait au micro de Jean Amrouche sa rencontre avec le vieux sage Dogon au Gautemelli dans une émission diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale en 1952. Une autre personnalité dont vous m'avez dit très vite que vous aimeriez qu'on puisse l'écouter, c'est le paysagiste Pascal Cribier. Il est devenu connu au moment du réaménagement du jardin des Tuileries au début des années 90 et a conçu tout au long de sa vie, il est disparu hélas en 2015, quelques 180 jardins dans des endroits extrêmement variés pour des commandes publiques ou privées. En 2011, il était l'invité de Laure Adler dans l'émission Hors Champ et lui racontait son parcours. C'est l'émission qu'on va pouvoir écouter tout à l'heure. Pourquoi avoir eu envie d'entendre la voix de Pascal Cribier cette nuit, Emmanuel Guibert? Comment est-ce que vous aviez fait sa connaissance?
J'ai eu envie de réentendre Pascal parce que j'ai eu le privilège d'être son voisin pendant quelques années en Normandie. Et donc, de pouvoir profiter de la présence de cet homme. Évidemment, je vais être très superlatif ce soir sur la plupart des gens dont je parle, parce que c'est bien sûr des gens que j'aime, dont je programme la voix. Pascal, c'est quelqu'un qui marquait tous les gens qui l'ont rencontré, qui les frappait. De prime abord par son allure, il en sera question un peu dans l'émission.
Sa belle allure.
Voilà, c'est important. Bah oui, c'était quelqu'un qui était beau comme un dieu. Et je dois dire que passer sous la douche de ce regard bleu transparent, en plus tellement chargé d'avidité, de connaissance, de volonté, de discussion. De sensualité, c'était vraiment quelque chose qui vous retenait auprès de lui. Et puis ensuite, bon, moi je pense que je passerai ma vie à arpenter des jardins sans trop savoir ce qui s'y joue, mais avec une admiration pour ça et une sorte de sensation d'appartenir à ces lieux. Que je regrette parfois de pas approfondir plus en étant plus du côté de la botanique, plus du côté de l'entomologie, j'aimerais en savoir plus, mais ça nourrit chez moi une admiration sans borne pour les gens qui précisément au cours de leur vie se cultivent, c'est le cas de le dire, sur la nature et puis singulièrement sur la nature des jardins, c'est-à-dire sur la nature telle que l'homme l'ordonnance, la régie. Et Pascal a un parcours qu'il va raconter, donc c'est pas la peine que je le fasse, mais le fait est que c'est un parcours très singulier, un peu chaotique au début. Il n'était pas voué nécessairement à ça. Et
parcours qui est passé par la course automobile.
Ouais, ouais, le karting. Il a été un champion de karting. Et puis voilà qu'il devient petit à petit vraiment par passion. C'est ça qui est formidable. C'est ça qui me plaisait tant chez lui, c'est qu'on sentait les autodidactes brillantissimes qui sont tellement pleins d'un sujet qu'ils ont envie non seulement de savoir mais surtout de mettre la main à la pâte. Pascal était quelqu'un qui passait sa vie dans les arbres, donc il était de l'autre côté de la haie pour moi, ce qui fait qu'il était pas rare que je le vois à des hauteurs vertigineuses avec ses vagues sangles, donnant une impression d'être dans son élément comme ça à des dizaines de mètres au-dessus de la surface du globe, à tailler les arbres, à les préparer en fonction de tout ce qui était séantise, c'est-à-dire la multiplication des vents, le changement du climat, la présence de ces champignons souterrains qui par réseau comme ça étouffent certaines espèces. Bref, de tout ça il parlait avec une flamme qui moi à chaque fois me passionnait, m'emportait, m'apprenait beaucoup. Et puis voilà, encore quelqu'un dont il a fallu porter le deuil il y a quelques années. Et je suis content aujourd'hui qu'on réentende cette voix extraordinairement vibrante. Et qu'il ait l'occasion de dire à Laure Adler, ce que, en quelques mots, ce qu'a été cette vie et cette passion, parce que bon, c'était quelqu'un qui s'exprimait en plus très très bien. Donc vous allez voir, c'est un vrai bonheur que de l'entendre. Donc ce sera la présence vivante de quelqu'un de très beau à tous les points de vue.
Ici s'achève la partie de l'histoire que nous avions choisi de raconter. Michel Hollard n'a pas été fusillé. Il fut déporté près de Hambourg, au camp de Neuengamme, où il dut affronter les pires conditions de misère physique et morale. Lorsque la puissance nazie s'effondra et que les Anglais d'un côté, les Russes de l'autre s'approchèrent du camp, les SS voulurent faire disparaître les témoins de leurs crimes. Ils entassèrent les déportés dans deux cargos qu'ils avaient l'intention de couler au large. Ce qui s'est passé ensuite, c'est le véritable Michel Hollard lui-même qui va en faire le récit.
Le bateau où nous étions a fini par être agité des mêmes signes que les autres qui étaient partis avant et qui avaient été coulés à la dérive au large de la mer Baltique. Quand nous avons entendu que ces signes s'appliquaient à nous et que notre destin allait être le même que celui de nos camarades coulés au fond de la mer Baltique, un grand moment de détresse s'est emparé de nous. J'ai proposé aux camarades qui étaient autour de moi dans la cale de prier pour nos familles et pour nos camarades déjà partis, et aussi un peu pour nous. Et je l'ai fait d'une façon très simple, en tenant la main de ceux qui étaient à ma droite et à ma gauche, ce qu'ils ont fait aussi. Un sentiment d'apaisement s'est emparé de nous après cette prière. Et trois quarts d'heure après, quand nous avons entendu appeler sur le pont tous ceux qui parlaient français devaient monter sur le pont, nous n'avons pas été tellement étonnés. C'était le salut, c'était la délivrance, parce que les 135 qui étaient ainsi sortis de la cale, eh bien, allaient être remis à des marins suédois qui étaient prêts à repartir pour la Suède avec leur bateau blanc. Le voyage à travers la mer Baltique dura 3 jours et 3 nuits à cause des mines. Puis nous descendîmes au quai de Trelleborg, qui est le port le plus au sud de la Suède. Et au bout de 6 semaines, nous fûmes alors rapatriés par petits paquets. J'ai eu la chance de faire partie du premier paquet et d'emprunter le premier avion qui quittait Stockholm vers Paris. Juste après le départ de l'avion qui me ramena à Paris, un avion anglais vint me chercher tout exprès, mais j'étais déjà parti, il vint donc pour rien. Et j'ai retrouvé mon pays, j'ai retrouvé Paris et les miens que je pensais ne jamais revoir. Ma joie a été troublée par l'idée des 19 camarades que j'avais perdu dans l'aventure. Mes 19 camarades de réseau, dont 15 sont morts en déportation et 4 fusillés. Ils n'auront jamais connu cette joie-là, alors qu'ils l'auraient mérité au moins autant que moi.
La voix et l'émotion de Michel Hollard dans le téléfilm que Jean Lhôte lui a consacré en 1972 pour l'ORTF. Vous avez souhaité, Emmanuel Guibert, que l'on entende cette voix au cours de cette nuit à travers ce petit extrait. Est-ce que vous pouvez nous présenter Michel Hollard, nous dire d'abord qui il était et puis nous raconter comment vous avez découvert son histoire peut-être ?
En l'écoutant, je me rends compte que c'est la nuit qu'on aurait dû consacrer à Michel Hollard.
Pour une prochaine fois peut-être.
Ah oui. Oui, oui, c'est quelqu'un qui mériterait un grand et long et documenté cycle d'émissions, parce qu'on n'en sait jamais assez sur cet homme. Cet homme, il a contribué à nous sauver la mise, dans la mesure où son courage indomptable l'a conduit à passer 98 fois clandestinement la frontière suisse, qui était une des frontières les plus gardées du Second Conflit mondial, pour apporter aux Anglais des documents qu'il avait généralement glanés lui-même ou fait glaner par les membres de son réseau. Parmi ceux-ci, il y avait le poète Robert Desnos, par exemple.
Un réseau qu'il avait constitué lui-même.
Lui-même. Au début, complètement seul, et puis petit à petit s'agrégeant comme ça des gens à mesure qu'il voyageait en France. Et pour espionner, pour glaner de l'information à destination des légations anglaises en Suisse, donc d'abord à Berne, ensuite à Lausanne. Et ces renseignements ont vraiment pesé sur le sort des armes pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'ils ont, entre autres choses vitales, permis que la RAF détruise une bonne partie des rampes de lancement de V1 qu'elle faisait installer généralement par nos ouvriers et paysans sur le littoral normand. Michel a, avec son réseau, signalé la présence de ces rampes de lancement et permis donc qu'elle soit en partie, mais en partie qui a été évidemment très importante pour la sauvegarde de Londres, qui aurait été sans cela, qui a déjà été noyée sur un tapis de bombes, mais qui aurait été totalement rayée de la carte.
Oui, parce que les rampes de lancement étaient destinées à détruire vraiment la ville de Londres.
Le sud de l'Angleterre et singulièrement Londres. Les alliés ont dit que, vraisemblablement, sans l'action de ce réseau, le débarquement en Normandie, d'ailleurs, aurait dû être reporté de nombreux mois. Donc, il a fait tout ça et... il s'en est sorti dans les conditions qu'on dit là, enfin qu'il vient de dire, miraculeusement, alors que, ayant été dans ce camp de Neuengamme où les gens mouraient par grappes, il avait fini par être traîné sur les rives de la Baltique où, in extremis, dans les tout derniers jours de la guerre, les Allemands se débarrassaient de centaines et de centaines de prisonniers en les mettant à fond de cale dans des bateaux et en coulant les bateaux au large. Et Michel a dû sa vie au comte Bernadotte, qui dirigeait la Croix-Rouge suédoise, qui était le descendant du maréchal napoléonien, devenu Charles XIV, je crois, roi de Suède, et qui a fini d'ailleurs par se retourner contre Napoléon à la fin de l'Empire. Et c'est donc ce Bernadotte qui a eu une action extraordinairement, lui aussi, courageuse et engagée à la fin de cette guerre pour sauver des vies, qui a pu épargner celle de Michel, mais bon, comme il le laisse entendre, la porte de la cale s'est refermée sur des gens qui, eux, n'ont pas été sauvés. Et puis Michel a perdu des membres de son réseau. Il est mort très âgé, à 95 ans. Je l'ai malheureusement pas connu. J'ai le bonheur de connaître ses enfants et petits-enfants, et arrière-petits-enfants. Mais je n'ai pas rencontré Michel lui-même, qui est mort vers 1995. Et qui, jusqu'à la fin de sa vie, chaque fois qu'il avait un sous-vaillant, allait le porter aux familles des membres de son réseau, qui n'étaient pas revenus. Donc c'est un homme exemplaire, ça a donné lieu à un livre remarquable. Je me suis dépatouillé pour que ce livre soit republié.
Il a été republié aux éditions des Arènes, hein, tout récemment.
Récemment, il s'appelle L'homme qui a sauvé Londres. La lecture en vaut la chandelle pour tout ce que je viens de dire et toutes sortes d'autres détails. Je pense que dans notre mémoire nationale, il faut vraiment faire une place à cet homme. Il faut que son nom soit plus connu qu'il ne l'est. On est allé commémorer l'année dernière à un des endroits où il passait dans le Jura, dans les forêts comme ça de sapins. On est allé commémorer son passage. Il faut que ce qu'il a fait se sache. Il faut que plus de lieux portent son nom en France. Parce que notre mémoire a besoin de lui, notre présent a besoin de lui. C'est quelqu'un d'exemplaire, c'est quelqu'un à qui je pense quand j'ai une rage de dents ou quand j'ai pas envie de me lever, parce que il est allé au bout de ce que quelqu'un peut faire pour aider d'autres gens. Et à ce titre, vraiment, il faut qu'il soit plus connu qu'il ne l'est.
Dans ce livre, dans la réédition de ce livre qui date à l'origine des années 60, hein, L'homme qui a sauvé Londres, qui est signé Georges Martelly, un journaliste anglais, je crois, à l'origine, on trouve une série de dessins de vous, 98 petites cases dans lesquelles vous représentez Michel Hollard en train de passer clandestinement la frontière suisse, 90 cases comme les 98 fois où il a fait ce voyage-là. La Seconde Guerre mondiale est assez présente dans les sujets qui vous intéressent, qui vous inspire, Emmanuel Guibert. On parlait tout à l'heure de la guerre d'Alan. Bien sûr, votre tout premier album de bande dessinée, qui était paru chez Albin Michel au début des années 90, s'appelait Brune et s'intéressait à la montée du nazisme en Allemagne. Comment est-ce que vous expliquez que cette période-là occupe à ce point votre esprit, semble-t-il du moins ?
Ben, j'ai l'impression de m'intéresser à pas mal de choses différentes, mais le fait est que je me considère quand même né dans l'orbite de cette guerre. Je suis né en 1964, mes parents sont nés avant ou pendant la guerre, mes grands-parents évidemment l'ont fait ou subi. Il est évident que toutes sortes de récits, films, etc., ont pu bercer mon enfance. Mais il a quand même fallu des circonstances, des coïncidences, comme celle par exemple de ma rencontre avec Alan, pour me faire peut-être toucher du doigt plus précisément ce qu'a été cette période. En plus, il va de soi que on voit disparaître les générations qui nous précèdent à mesure qu'on avance au même en âge. Et il y a un moment où on se rend compte que des gens qui pullulaient autour de nous quand on était plus jeunes n'existent pour ainsi dire plus, ou à tout petit effectif, et qu'on ne doit pas se sentir détaché de l'obligation de recueillir et de faire passer ce que ces gens ont encore à nous dire sur des événements relativement récents. Parce qu'à ce moment-là, on assume un rôle qui est important dans la vie de chacun, je trouve, qui est celui de courroie de transmission de l'expérience et du savoir. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça avec Alan. Il va de soi en plus que ça a été une période singulièrement qui a marqué évidemment la planète au fer rouge. Et 20 ans, c'est rien. Moi, je suis né 20 ans après. Quand j'étais petit garçon, j'avais l'impression que tout ça était très lointain. À mesure que j'ai avancé en âge, je me suis rendu compte que j'étais né au fond après-guerre. Et puis quoi, un après-guerre, qu'est-ce que c'est? C'est un avant-guerre. Malheureusement, on est toujours entre deux guerres. Et je pense que dans le fait de se les raconter, abondamment, en essayant peut-être de ne pas exalter toujours les aspects héroïques ou romanesques que peuvent avoir ces guerres, qui est la tendance qu'on a assez naturellement quand les événements sont passés. On y cherche avant tout une espèce de source d'histoire distrayante. Quand on essaye vraiment de se souvenir de ce que ça a été, c'est-à-dire d'une Europe qui ressemblait à la Syrie d'aujourd'hui. J'ai lu il y a quelque temps un bouquin bouleversant sur ce qu'a été Naples, par exemple, en 1944, un bouquin d'un dénommé Norman Lewis. Moi qui connais aime cette ville, pensais que fut un temps où pratiquement toutes les femmes en sont sorties pour se prostituer au bord des routes, pour pouvoir avoir un peu de quoi donner à manger à leur famille. Et toutes sortes d'autres anecdotes à l'avenant, tout d'un coup remet un certain nombre de pendules à l'heure en soi. Et je trouve que on traite la construction européenne, qu'on soit pour ou contre d'ailleurs, avec parfois un peu de légèreté, voire de franche hostilité. Et je pense que dans ces débats intervient trop peu le souvenir concret. Et quand je dis souvenir, il faudrait que ce soit présent. Et c'est pour ça aussi qu'on fait des livres sous forme d'images, sous forme de témoignages vraiment patents, que soit présent tout ce qu'on s'est infligé, en fait, ces dernières décennies, parce que c'est prêt, on peut toucher ça de la main. Si on a la chance d'avoir encore des grands-parents ou des parents qui ont connu ça, on se rend compte à quel point c'est prêt. Je pense qu'il faut se le dire et se le redire d'une manière, si possible, très très concrète, très imagée, de manière à ce qu'on ne soit pas tenté d'y replonger.
La deuxième partie de cette nuit se conclura par le premier volet d'une série d'entretiens que Louise de Villemorin avait accordé à André Parinaud en 1957 pour Paris Inter. L'émission s'appelait Monsieur Mon Passé et Louise de Villemorin y racontait pour commencer quelques-uns de ses plus beaux ou plus douloureux d'ailleurs souvenirs d'enfance. Elle évoque en particulier dans cette émission le souvenir de la disparition tragique de sa poupée, la petite Lily. Louise de Villemorin, c'est quelqu'un que vous avez souhaité entendre cette nuit. Emmanuel Guibert, qu'est-ce qui vous séduit dans cette voie-là?
Alors, on va clore donc la nuit avec Louise de Villemorin, si je comprends bien. Il est évident que, vous le savez, Mathilde, je vous ai un peu harcelé ces dernières semaines, et je m'en excuse, mais c'est vrai que c'était pratiquement un supplice de tantale aussi, outre la joie formidable que vous me faites en me proposant de programmer cette nuit. Il est évident que vous m'ouvriez un magasin des accessoires tels que j'avais envie de me servir jusqu'à plus soif, et j'aurais bien voulu entendre mille autres voix. Je pensais par exemple à Victoria Ocampo, il y a quelque temps on en a parlé ensemble, qui a dirigé cette revue Sur. Et tout ça me vient généralement, c'est pareil, de connaissances, de gens que j'ai croisés et qui du coup ont attiré mon attention sur des personnes du passé. En l'occurrence, j'ai été en classe avec un petit neveu ou un arrière petit neveu de Louise de Villemorin. Et puis il se trouve que ces dernières années, j'ai travaillé, je continue de travailler avec Patrick de Saint-Exupéry, qui est lui-même d'une lignée qui intéresse Louise en ce sens que son glorieux ancêtre Antoine de Saint-Exupéry a été très 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 épris de Louise de Villemorin.
Ils ont été amants.
Ils ont été amants, comme elle l'a été avec beaucoup d'autres partenaires. Mais on va entendre une voix qui a teinté à mon oreille quand je l'ai entendue la première fois sur France Culture, à cause des quelques petites attaches que je viens de vous dire, et puis surtout rapidement à cause de ce qu'elle dit, c'est-à-dire à cause de cette manière, ou grâce à cette manière franche, imagée, élégante, gracieuse de dire les choses. Elle a dit une phrase que je vais citer imparfaitement mais qui me plaît bien, qui est je suis toujours triste et j'ai toujours envie de rire. Et je pense que chacun de nous en fait pourrait dire ça. Et elle a dans cette franchise, dans cette façon de ramasser en une phrase quelque chose qui est une vérité universelle, un trait d'elle-même qui me convient, qui me plaît bien. C'est amusant de boucler la boucle, c'est-à-dire d'avoir commencé avec Fred II, qui était vraiment un prolétaire issu de ce lumpen prolétariat d'avant-guerre à Boulogne-Billancourt, où on perdait son job le soir et on le retrouvait le lendemain dans une des nombreuses usines de la ceinture industrielle de Paris, du 15e arrondissement, etc. Et d'achever avec Louise, parce que je trouve qu'ils avaient tous les deux leur franc-parler. Je pense à une autre phrase de Fred, du coup, qui me plaît bien aussi. Fred disait « Tout ce qui est faux, ça sert à rien ». Et voilà, je rapprocherai assez « Tout ce qui est faux, ça sert à rien » de « J'ai toujours envie de pleurer et j'ai toujours envie de rire ».
Et Louise de Villemorin dit aussi « Tout dans ma vie est imagination ». Au fond, que je raconte des souvenirs ou que j'écrive des romans, tout ce que j'ai vécu relève de l'imagination, c'est ce qu'elle dit dans cette émission.
Ouais, c'est très important de dire que quand bien même on se drape de toutes sortes de précautions, de diplômes ou de présupposés sur notre qualité d'historien, de témoin, etc., assez largement, chacun d'entre nous invente la vie autour de lui, il la rêve plus ou moins, et ne pas s'en rendre compte, c'est parfois s'exposer à l'énoncé de vérité première qui en fait n'en sont pas, alors que tous ces gens surintelligents qu'ont été, par exemple, Fred ou Louise de Villemorin, sont des gens qui savent et qui disent qu'évidemment, ils essayent passionnément de trouver la vérité, mais qu'en même temps, ils l'inventent en permanence.
Emmanuel Guibert, vous avez souhaité nous faire partager un autre souvenir, un autre plaisir d'auditeur. Le petit extrait d'une émission sur laquelle on a réussi à remettre la main. On l'écoute et vous nous direz ensuite de quoi il s'agit.
La vie musicale.
Nous avons appris fortuitement la présence à Paris de Monsieur Herbert Epps, qui sera à Londres où il donnera deux récitaux. Deux récitals. T'étais pas fâché?
Non, continue.
Donc sans rien en dire aux reporters des journaux.
Non.
Quoi?
Non.
Si?
Non.
Zut.
Bon?
Crotte.
Jules.
T'es pas fâché?
Allons. Nous nous sommes précipités à l'hôtel où le maître est descendu.
Paris, le hall de l'hôtel Drouot.
Monsieur Epps, s'il vous plaît.
Appartement 514, cinquième étage.
Rappelons à nos auditeurs que Monsieur Herbert Epps est le premier trompette solo à l'Association Philharmonique Internationale de l'Amicale des Anciens Élèves Exécutants du Conservatoire des Hautes Études Instrumentales des Concerts Variés de Musique Légère Franco-Canadienne.
Qu'est-ce que c'est?
Monsieur Epps, pour Radio Meumeux.
Je suis son valet de chambre. Je crains que monsieur ne puisse recevoir monsieur, car monsieur est avec madame.
Oh, voyons, écoutez, c'est dommage, on est venu exprès.
Bon, il peut pas refuser de jouer pour nos auditeurs.
C'est que madame et monsieur sont très rieurs.
Rieurs?
Oui, qu'est-ce que ça fait?
Il me semble que pour jouer de la trompette.
Mais non, au contraire!
Ça fait plus gai!
Mais voyons.
Enfin, si vous voulez essayer, je vous aurais prévenu. Entrez.
Et quelques instants plus tard, monsieur Herbert Epps, aux côtés de madame, se prépare à jouer ce solo de trompette qui l'a rendu célèbre.
Il n'a pas l'air rieur du tout.
Chut. Non. Non. Vous en... Madame. Non, madame.
Madame.
Non, allons. Non, essayez. Non, reprenez. Voilà. Non, non. Non, allons. Maître.
Je vous en prie.
Non. Non, allons. Non,
dommage.
Essayez, ça commence bien. Non, écoutez, essayez de prendre sur vous.
Je vous l'avais dit, ils sont très rieux.
Allons, voyons, maître.
Non, alors, essayez.
C'est pour la radio.
Non, soyez gentil. Allez. Non, essayez, non, allez. Non, c'est fini, maintenant. Allez, on reprend. 1, 2, 3. Non. Non, c'est pas possible. Non, soyez gentil. Non, allez. Non. Maître, écoutez.
Encore une petite fois, écoutez.
Non, mais
allez, écoutez,
essayez d'être sérieux. Vous devriez être sérieux, maître.
Ah, mais vous êtes sûr.
Non, ne rigolez pas comme ça. Non. Non, maître, allez, je vous en prie. Allez, allons-y. Allez, voilà. Ah. Non, alors il n'y a pas moyen. Non, c'est scandaleux, c'est encore une idée à Jules, ça. Non, écoutez, ça ne peut plus durer. Coupez.
Nos auditeurs auront sans doute reconnu la voix de Francis Blanche et de ses complices Robert Derry et Colette Brosset dans l'émission Le Parti d'en rire, enregistrée en janvier 49 pour la chaîne parisienne. Ça vous fait toujours autant rire, Emmanuel Guibert, si nos auditeurs pouvaient avoir l'image. Ils vous auraient vu hilar à la réécoute de ce passage. Qu'est-ce qui vous fait autant
rire? J'espère que je ne suis pas le seul. Je pense que là, c'est un moment où on doit tous se marrer si tout va bien. Ben bon, ça faisait du bien. J'y ai pensé évidemment d'emblée cette nuit-là, à côté de propos qui pouvaient être plus dramatiques ou plus sérieux, d'avoir nécessairement un moment où on rigole. Et pour ça, je suis allé pêcher du côté de Francis Blanche. Je me souvenais de toutes sortes d'émissions. Enfin, j'avais pas oublié Maître Epps et sa trompette calamiteuse et sa femme très rieuse. Je trouve que c'est très efficace de se marrer à la radio, de se marrer en plus en faisant quelque chose qui est peut-être une denrée plus rare aujourd'hui, c'est-à-dire en se laissant le temps de le faire. Mmh. Là, ce qui est frappant dans cet extrait, c'est à quel point ça dure. Ça ressemble à rien de ce qu'on connaît aujourd'hui. On aurait déjà eu 5 jingles et 10... je sais pas si vous pensez comme moi, mais moi je trouve ça très rassérénant et très roboratif, comme ça, d'entendre 5 bonnes minutes de poilade sans interruption. Il y a des musiciens qui font ça bien aussi. Il y a un groupe de variété que je trouve un des plus grands groupes de variété du monde, qui est italien, qui s'appelle Elio e le Storie Tese. Si un jour vous pouvez mettre vos oreilles sur Elio e le Storie Tese, vous le regretterez pas. C'est des sortes de Monty Python italiens, fabuleusement doués musicalement. Et j'ai appris des tas de gros mots avec eux, parce qu'ils disent sans arrêt des parolacce, comme on dit en italien. Mais il y a quelques morceaux comme ça où ils n'hésitent pas à se poiler assez longuement. Je trouve que ça paye, ça fait du bien, c'est contagieux, c'est comme le bâillement, et ça ouvre comme ça, dans nos petites lucarnes radiophoniques, une fenêtre oxygénante pendant quelques minutes, on se marre bien.
Dans quelques instants, on va pouvoir écouter des souvenirs d'enfance de nouveau. Ce sont ceux que Jean Giono avait racontés à Tao Samrouche pour une série d'entretiens diffusée sur la chaîne parisienne en 1955. Série d'entretiens devenue célèbre par le talent de conteur dont Giono fait preuve. Dans l'émission qu'on va entendre, il fait le récit du souvenir de ses promenades enfantines au cours desquelles il rencontre une certaine mère Bijou et partant de là, fait le portrait de ce personnage et de ses deux fils. Emmanuel Guibert, en deux mots, parce que le temps file, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi Jean Giono fait partie de ceux que vous vouliez entendre cette nuit?
J'ai été élevé en Haute-Provence, du côté de Manosque, là où il habitait. Et j'en suis parti vers l'âge de 9 ans. Il fallait, je suis venu en région parisienne, j'ai été très heureux. Mais enfin, j'ai toujours gardé quand même une grosse nostalgie de ces paysages. Et nostalgie qu'il a en partie combattue et étanchée pendant mon adolescence, quand j'ai découvert ses livres. Parce que j'ai redécouvert les balades que je faisais dans les Préalpes, comme ça, le week-end avec mes parents. À travers ces Un de Beaumugne, Regain, Bataille dans la montagne, etc. Et donc j'aime beaucoup Giono, et puis quelques années après, j'ai découvert ses entretiens avec Amrouche. J'aime aussi, alors là en l'occurrence c'est la sœur d'Amrouche qu'on va entendre, Taos, qui était une chanteuse berbère. C'était donc de Kabyle, Amrouche et donc Jean Amrouche et sa sœur Taos. Et ils ont vécu de plein fouet évidemment tout ce qu'a été la tragédie algérienne. Amrouche s'est signalé par nombre d'entretiens, on en a entendu par Brassé sur France Culture, avec Mauriac, avec Claudel, avec... tout ce que la littérature gît, tout ce que la littérature a compté de prestigieux dans ces années-là. C'est quelqu'un d'attachant, prodigieusement bon élève. Je trouve que c'est il a à la fois une diction et une façon de pas lâcher le morceau qui me plaît beaucoup. Et puis là, donc, on entend une anecdote de Giono qui est, comme souvent avec Giono, succulente, comme il disait lui-même, délicieuse à écouter.
Merci beaucoup Emmanuel Guibert, on se retrouvera tout à l'heure au petit matin pour conclure cette nuit. D'ici là, place donc aux émissions que vous avez choisies pour cette deuxième partie. Jean Giono d'abord, le portrait d'Alan Ingram co-proposé par Christian Rosset pour les ateliers de la nuit, un documentaire dont on a parlé tout à l'heure et dans lequel vous intervenez. Pascal Cribier au micro de Laure Adler, c'était pour Hors Champ en 2011. Et enfin, Monsieur Mon Passé, Louise de Villemorin au micro d'André Parrino en 1957 sur Paris Inter.